Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 167e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 24 octobre et comme chaque semaine, nous allons vous parler des dernières sorties comics VO avec entre autres Marvel et la suite d'Infinity, le crossover Battle of the Atom. Nous aurons un petit comic digital cette semaine, 13 Coins. Ensuite, en partie indé, nous parlerons de deux nouveaux numéro 1 ainsi que la suite du très très bon Sex Criminals du mois dernier. Et enfin, chez DC, nous terminerons avec les tie-in à Forever Evil et la suite de Lights Out. En fin d'émission, nous reviendrons sur les meilleures sorties TPB de la semaine. Et ça conclura notre heure de review comics. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour vous parler de toutes ces nouveautés, Flo.
Yo.
Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Valentin.
Hello les gens.
Et Mister René Bonny.
Hey, salut les gens, ça va, moi ça va.
On va commencer par... Quelle entrée en matière de ouf.
Je me suis fait peur tout seul.
On va commencer par Marvel cette semaine avec la sortie du Infinity The Heist numéro 2. Toujours écrit par Frank Thierry avec des dessins de Al Barrio Nuevo. Suite de ce tie-in à Infinity qui revient sur une équipe d'ennemis bien connus d'Iron Man. Tous regroupés sous une bannière afin d'aller voler. Tout simplement, toutes les armures d'Iron Man ainsi que toute la technologie qu'il possède pendant que lui et ses comparses sont partis dans l'espace chasser les Builders, tout simplement. Et à la fin du premier épisode, un des membres de l'équipe, Blizzard, tombait dans un état catatonique. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, mais en tout cas, il s'écroulait. Et le comic s'arrêtait comme ça, donc un petit cliffhanger sympathique, et on découvre que les quelques jours ont avancé, en fait, quand on reprend l'épisode, et notre ami Blizzard a subi de grosses modifications, et c'est là que va intervenir un petit problème pour moi, c'est que ce comic presque prend de l'avance vis-à-vis d'Infinity, je trouve. Puisque, en fait, Blizzard a été... Il prend un peu d'avance, parce qu'on a quand même vraiment... c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il a été atteint par les brumes tératogènes des Inhumains. Chose qui avait été relâchée dans le dernier Infinity, on est d'accord, mais là, on voit que la société a vraiment déjà évolué et s'est adaptée à ça.
C'était à la fin du 3. Il y a déjà deux numéros, par exemple, de Spider-Man Team-Up qui traitaient de ça, donc bon...
Ouais, mais je lis pas ça parce que ça s'appelle Superior Spider-Man en fait. Donc,
mais ouais, non, il y a déjà pas mal de titres, même dans le Secret Avengers de cette semaine, c'est encore aussi en lien avec avec les Inhumains, avec justement tout un tas de personnages qui deviennent, qui se rendent compte qu'ils sont Inhumains. Donc effectivement, c'est bien que ça apparaisse aussi dans The Heist.
Ah ben, je dis pas que c'est mal, j'ai juste l'impression que, je sais pas, il y aurait presque un mois de décalage entre les événements qu'on a lus et ce qui se passe dans ce comic, quoi. Vraiment, on sent que la société a déjà hyper évolué. Vis-à-vis de ce renouveau qu'elle subit.
Mmh. Oui, c'est vrai. Mais après, en même temps, leur transformation est très rapide. Hein, c'est en quelques heures, ils passent à l'état de cocon et après ils réapparaissent. Donc, non, moi ça m'a pas gêné.
C'est notamment quand tu vois ce qui se passe dans les rues, à un moment.
Avec l'invasion, Bon, c'est pas.
Bon, après,
ça m'a pas gêné.
Voilà, bon, du coup, Blizzard va avoir quelques états d'âme, puisque sa nouvelle condition va le faire un petit peu changer d'avis sur ce qu'il est en train de faire et ce qu'il devrait faire plutôt pour essayer de s'adapter à ce nouveau statu quo pour lui. Un comic vraiment tout en introspection, je trouve. Pas inintéressant, finalement, c'est pas si mal écrit que ça. Maintenant, finalement, le fameux casque qu'on nous promettait, on est à la moitié, on l'a toujours pas vu et on en parle finalement assez peu.
Ouais, c'est vrai, mais voilà, comme tu dis, c'est centré sur le personnage de Blizzard dans ce numéro. Il y a une scène amusante où il essaye de déterminer quels sont les pouvoirs qu'il a pu obtenir justement grâce à son statut d'inhumain. Mais au final, c'est plus une histoire de bande de potes, et ça, c'est plutôt bien écrit. sa relation avec Whirlwind, je trouvais assez amusante. Pareil avec la nana et tout, qui est limite en train de draguer ou qui parfois fait des petits pics à Whirlwind aussi. Il y a ce Unicorn qui est complètement taré, je le connaissais pas du tout.
Ah, tu connaissais pas le personnage du Unicorn?
Non, je le connaissais pas, et il a l'air d'avoir un pouvoir vraiment bizarre avec son œil, et il bouffe n'importe quoi. Moi j'ai trouvé ça cool, et graphiquement c'était solide. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on s'attendait à voir, un cast qui s'organise et tout, de façon un petit peu comme Ocean's Eleven, quoi. Mais voilà, après deux numéros, ça a toujours pas commencé. C'est plus les problèmes dans l'équipe.
On en parle un petit peu quand même, c'est sûr, mais pas autant que ce qu'on pourrait s'attendre vu le titre.
Ouais. Mais du coup, ils ont réussi quand même à rendre ces deux persos que sont Whirlwind et Blizzard intéressants, ce qui est quand même déjà pas mal.
Je vais finir par ajouter que je trouve qu'il y a un gros rapprochement avec cette équipe-là, avec les Rogues. Et notamment les Rogues façon New 52, notamment avec ce changement maintenant de Blizzard.
Ouais, c'est vrai. Comme ils ont des pouvoirs un petit peu plus maintenant, personnage, méta-humain, quoi, on va dire. Puis il y a ce côté groupe de potes, quoi, mais avec pas mal de... parfois ils se lancent des piques et tout, c'est assez bien mené. Oui, c'est vrai que ça se rapproche pas mal des Rogues, des Lascar.
Donc une lecture assez sympathique, moi j'ai envie de dire un check it plus, c'est peut-être pas un incontournable, mais ça se laisse lire assez agréablement.
Je suis d'accord avec toi.
J'ai une petite question, est-ce que c'est le même ton que Superior Foes of Spider-Man ou pas du tout?
Non plus, on en avait parlé déjà la dernière fois et non. Non, définitivement, c'est vraiment éloigné de cette série.
Ouais, Superior Foes a une écriture un peu plus indé, on va dire. Alors que là, c'est pas vrai. C'est un peu plus simple, un peu plus, on va dire, gros buddy movie action, quoi. Mais c'est agréable. Moi, pour moi aussi, c'est un check it plus.
Ok. Le numéro suivant, c'est le Marvel Now What numéro 1, Bruno.
Oui. Alors, je vais pas aller vous définir tous les crédits parce qu'il y a énormément de gars qui travaillent à la fois sur le côté graphique et sur le scénario. Juste, on a une couverture de Scotty Young et on a un début d'histoire par Scotty Young et une fin par Scotty Young. Entre temps, c'est un petit peu comme dans le dernier AVX Versus. C'est des tas de petites histoires à tendance un peu comédie qui reviennent sur justement sur Marvel. Avec parfois des petits pics justement sur le Marvel Now qui sont assez amusants, surtout dans la deuxième histoire avec justement le maître de l'évolution qui parle du Marvel Zen versus le Marvel Now, avec vraiment des choses très amusantes. Après c'est un numéro que j'ai trouvé quand même assez inégal. Je dirais qu'il y a la moitié des histoires qui sont drôles et l'autre qui tombe à plat. Graphiquement il y a un petit peu tous les styles de... Il y a du style indé, il y a du style un peu cartoony, il y a les pages de Scotty Young qui sont sympas. Bon, c'est un truc, franchement, c'est assez frais. Il y a vraiment de bonnes piques envers Marvel. Vraiment de l'autocritique qui est assez sympa. Après, voilà, c'est pas le numéro fantastique le plus fou du siècle, quoi. Mais voilà, je sais pas ce que t'en as pensé, Valentin. Je croyais que tu l'avais lu, pardon.
J'avais pas lu eu sur le compte. Lire,
désolé.
C'était intersidéral.
Ça s'appelle un epic fail.
Ouais, c'était très joli.
Ouais, non, je l'avais vu, je sais plus, hier matin, hier soir qu'il a été marqué. Bon, c'est pas grave. Désolé.
Donc, c'est vraiment des suites de petites séquences, ouais. Apparemment, je suis le seul à avoir lu, ouais.
Voilà, donc c'est des suites de petites séquences. Bon, je vous dirais un petit check-it.
Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait écho à une vieille série Now What, qui était une série parodique à l'époque des années 80, fin D'accord. 70, années 80, je crois, chez Marvel.
Je crois que c'était. Non, je crois que c'était What the.
Ah, c'était What the, voilà, excuse-moi, merci.
C'était What the qui faisait écho à What If et qui était bien plus dans la grosse parodie, quoi, du coup.
Effectivement, pardon.
Ouais.
Donc, tu as dit, check it, c'est ça?
Ouais, un petit check-it, ouais, à feuilleter, et voilà, sympathique. C'est un one-shot.
Très bien, on continue avec Flo, qui va nous parler de la suite de Battle of the Atom au sein des pages du Wolverine and the X-Men numéro 37.
Oui, donc l'avant-dernier chapitre du crossover dans Wolverine and the X-Men, écrit par Jason Aaron, dessiné par Giuseppe Camuncoli, et terminé... donc c'est même plus un encreur, c'est terminé par Andrew Curry, et ça se voit visuellement, c'est vraiment pas terrible du tout. C'est du camoncoli en pilote automatique. C'est pas beau du tout à voir. En gros, dans ce numéro, les choses commencent un peu à bouger tout de même. On se souvient que dans le précédent numéro, les pseudo X-Men du futur, mais en fait la Brotherhood, avait essayé de ramener dans le passé les X-Men du passé, mais ça marchait pas. Et ils se demandaient ce qui se passait, c'était très très étrange. Et du coup, ils sont barrés avec eux comme prisonniers. Se barrer où? Pour faire quoi? Mystère. En tout cas, ils passent au plan B. Et c'est dans ce numéro qu'on va découvrir ce plan B. Évidemment, les X-Men de Cyclope, les X-Men de Cyclope, les X-Men de la Jean Grey School et les vrais X-Men du futur, donc ceux très bizarres avec le cloak, avec ce vieux Iceman, etc., partent à leur poursuite. Voilà. C'est à peu près l'histoire, et en gros, tout est censé se dénouer dans la semaine prochaine dans Battle of the Atom numéro 2. J'ai trouvé ce numéro pas mal, moins long à lire et moins galère que le précédent numéro de Wolverine and the X-Men, partie du crossover que je trouvais vraiment nul. Là, ça se lit plutôt bien, ça bouge pas mal, il y a de l'action, voilà. Je regrette juste, quand même, artistiquement, c'est assez moche, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Valentin.
Moi, pareil que Florent, je trouvais que les dialogues étaient beaucoup plus plaisants à lire que ceux de Bendis. On sent que c'est Jason Aaron. Et ouais, pareil, par contre, les dessins, c'est un peu moche, quoi. Et moi, j'ai bien aimé les cases où on les voit, les différents versions des personnages se côtoyer. Et pour moi, ouais, j'ai beaucoup plus aimé ce numéro que le numéro de la semaine dernière.
Ouais, c'est plus fluide à lire.
Ouais, tout à fait d'accord avec vous. Là, c'est vraiment, on sent qu'on arrive à la fin de ce crossover. Il y a beaucoup d'action, ça va dans tous les sens, il y a énormément de personnages. Moi, ces versions alternatives, je les trouve vraiment très plaisantes. On a droit à quelques dialogues assez savoureux entre les différents personnages. Entre les deux Quentin Quire, c'est assez amusant. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le même t-shirt que Quentin Quire. Que j'ai trouvé, ça m'a fait sourire.
Magneto was left.
c'est
nul.
Et c'est nul, mais ça m'a
fait... Je trouve que c'est une super blague, moi.
C'est très bon, mais aussi, moi aussi, j'y ai pensé. Je me suis dit, j'aimerais bien voir le même.
Donc voilà, il y a pas mal d'humour, il y a de l'action. Il y a une fin qui m'a fait beaucoup penser au film X-Men First Class. Donc, on verra ce qui va se passer dans le dernier numéro de Battle of the Atom. Ouais, c'est efficace et on va voir ce qui va se passer à la fin. Mais... Moi, c'est un bail.
Quand on pense que tout ça aurait pu être résumé en one shot... Oh, je suis mauvaise langue.
Peut-être pas.
Je pensais aussi que vous alliez pas trop suivre ce crossover finalement, et puis finalement vous êtes allé quasiment au bout.
Ah bah on l'a commencé, on va le finir.
Vous êtes fous parce que moi je me suis arrêté, j'en pouvais plus.
Ouais, moi j'ai même oublié de le lire puisque à chaque fois j'oublie que Wolverine and the X-Men fait partie du crossover. Donc à chaque fois je lis pas les parties Wolverine and the X-Men.
C'est vraiment.
Sinon je l'aurais lu.
Pardon, Benny.
J'ai fini.
D'accord.
Ça vachement cool, moi, toutes ces versions futuristes des X-Men. Je sais que c'est déjà vu et revu, mais il y a des enfants de persos qu'on connaît, il y a des persos qui ont changé de pouvoir, il y a Colossus qui a une moustache. Enfin, moi, je trouve ça classe.
Mais peut-être parce que ce sont des choses que t'as jamais vues. La super référence. C'est peut-être parce que ce sont des choses que t'as jamais vues, Bruno, d'avoir.
C'est parce que je suis hyper féru, en fait, de tout ce qui est version alternative des personnages ou trucs qu'on verra jamais. Et parce que du coup, ils peuvent s'éclater à faire un peu n'importe quoi. Là, quand on voit ce Iceman, Gandalf, c'est n'importe quoi, c'est what the fuck, et moi, ça me fait délirer.
Ouais. Mais par contre, il y en a de plus en plus ces dernières années, je trouve. Hein. Remender s'y était déjà essayé sur des personnages dans le monde d'Apocalypse, sur son run sur Uncanny X-Force. Mm-hmm. Et on peut en trouver d'autres. Mais il y a de plus en plus d'auteurs qui le font. Donc à force, ça crée une quantité de galeries de personnages tous plus délirants les uns que les autres.
Valentin ?
Moi, je suis assez d'accord avec Bruno. Moi, c'est un petit guilty pleasure. J'adore aussi le concept de voyage dans le temps, les versions parallèles. J'étais très très fan de la série Exiles. Et du coup, pour moi, voir les futurs X-Men, voir toutes les versions parallèles, c'est génial, quoi. Surtout qu'on se dit que ça sera probablement pas le cas. Et pour moi, ouais. J'aime bien le crossover, mais il souffre de longueur, quoi.
C'est clair. Pour moi, le gros problème principal du crossover, c'est quand même que le voyage dans le temps, c'est très sympa, mais pas géré par Bendis, quoi. Il a déjà prouvé à maintes et maintes fois que le voyage dans le temps, il sait pas faire. Donc, bon, bah, tant pis, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis arrêté. Finalement, vos notes sont plutôt positives, hein, pour cet avant-dernier épisode.
Ouais, 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 c'est pas mal.
Ouais. Bye.
Ouais, un bye petit bye, bon, petit bye.
On va continuer avec la sortie du cinquième épisode de Superior Spider-Man Team-Up, dont Bruno nous parlait tout à l'heure, mais c'est Valentin qui l'a lu.
Oui, donc on retrouve au scénario Christopher Yost, et au dessin, on a Marco Cecchetto, et donc c'est la, on voit les Superior Six, on voit la suite de l'arc de Yost, on voyait Spider-Man récupérer ses différents collègues des Sinister Six, et on les voit entrer en action et contre le Wrecking Crew qui essaie de piquer un objet chez Alchemax. Et donc j'ai vraiment bien aimé ce numéro parce que justement on voit les Superior Six que le Superior Spider-Man essaie de faire passer pour des rédempteurs, qui sont en quête de rédemption, un peu comme les Thunderbolts. Et j'ai vraiment bien aimé parce que on se rend compte qu'ils sont peut-être pas si volontaires que ça. Et pour moi, ce numéro est vraiment bien. Les dessins sont vraiment pas mal. On voit aussi Sun Girl, que Yost va traiter dans une future série. Et donc pour moi, j'ai vraiment bien aimé le numéro. Je lirai probablement la suite.
Flo, tu l'as lu aussi ?
Non, non, pas du tout. Non, non.
Ah, pardon.
Non, non.
Pardon, non, non, j'ai mal regardé son conducteur, je me suis trompé de personne, effectivement. Non, j'étais à Valentin.
C'est le numéro des Epic Fail, au fait.
Ouais, j'étais à Valentin et je me suis trompé, je croyais que c'était faux. Donc, ta note, Valentin ?
Un bail.
Un bail. Mm. On va continuer avec la sortie du 13e épisode de FF Bunny.
Ouais, alors du coup, un épisode scénarisé par Matt Fraction et Lee Allred. Donc sur un script de Lee Allred en réalité. Michael Allred est au dessin et Laura Allred à la colorisation.
C'est donc un comics familial.
Voilà, Lee Allred, je ne sais plus qui c'est par rapport à. Ah voilà, c'est ça, d'accord, oui. Puisqu'il me semblait qu'on l'avait dit un jour, mais depuis j'avais oublié. Donc alors, pour résumer la situation, c'est un petit peu complexe. Les FF ont réussi à s'échapper de l'emprise de Doom, qui est donc en train de travailler avec Kid Immortus, Teen Annihilus et Ravonna. Donc des versions un petit peu kids, justement, de ces super vilains bien connus. Et il s'échappe grâce à l'aide de l'Homme Impossible. Et alors c'est vraiment un épisode totalement délirant. En fait, ils vont chez le Watcher. Et par exemple, on assiste à une scène où vraiment, en fait, les Allred se lâchent totalement. T'as, comment il s'appelle, Hank Pym. C'est bien Hank Pym, j'ai comme un doute.
Non,
là,
c'est Scott Lang.
Je sais pas pourquoi. Oui, c'est Scott Lang en plus. C'est Scott Lang qui tient en joue. Oui, c'est pas vrai. Du seul coup, je me souvenais plus.
Non, c'est Scott Lang. Expert comics depuis 167 épisodes. Ouais.
C'est incroyable. Scott Lang, on veut pas le faire ce soir.
Ah, je sais Scott pas Lang, sa merde donc, ce soir, effectivement.
Scott Lang qui tient en joue donc le Watcher avec un Ultimate Nullifier. Et donc le Watcher qui fait Ok, je vais pas déconner, attachez-moi, je ferai tout ce que vous voulez. Et il y a même la femme du Watcher qui débarque et elle dit qu'est-ce qui se passe. Oui, la femme du Watcher qui débarque, elle dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. Et t'as le Watcher qui lui dit non mais chérie, ils tiennent un Ultimate Nullifier sur moi, vite calme-toi. Et puis elle fait oh bah d'accord, je me rends aussi. Enfin c'est n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe nawak. Et justement c'est excellent. Enfin vraiment là c'est il se lance dans plein de délires. C'est limite une parodie au fait de l'univers des Fantastic Four quoi, à force cette série. Et on sent qu'il se lâche parce que c'est bientôt la fin aussi hein, de FF. Je sais plus combien de numéros.
Dans 3 numéros,
il reste,
16 je crois.
Voilà. Donc ils en profitent pour se lancer dans plein de petits délires sur la mythologie autour des FF. Et c'est génial. Et on sent qu'on s'approche vraiment de la fin, puisque Scott Lang, et non pas Hank Pym, justement, va se lancer dans sa dernière. Dans son dernier assaut contre les forces de Doom.
Tel Indiana Jones, il fera sa dernière croisade.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que voilà, c'est un petit bijou ce titre. Dommage qu'il s'arrête. Et je crois que je suis le seul à l'avoir lu, donc
cette semaine,
ma
oui.
note. Ouais,
pas eu le
temps. Ce sera un bail pour moi et je vous encourage vivement à vous rattraper sur cette série parce que c'est génial.
On va continuer avec la sortie du 14e épisode de Indestructible Hulk, suite de l'arc Agent of Time, scénarisé toujours par Mark Waid, avec des dessins de Mahmoud Asrar pour les 5 premières pages et Kim Jacinto, ou Jacinto, je ne sais pas comment ça se prononce, pour les pages 6 à 20. Arc qui commence à, je trouve, traîner un petit peu en longueur. Hulk continue de voyager dans le temps à la poursuite de ses chronarchistes qui, du coup, sèment la pagaille à travers le temps. Hein. On sait très bien que, d'ailleurs, c'est marqué sur la cover, cette série est un tie-in, enfin, est un aftermath, pardon, à Age of Ultron. C'est d'ailleurs une des seules séries aftermath à Age of Ultron, avec Avengers AI, je crois. La poursuite du dernier chronarchiste va amener Bruce Banner ainsi que Hulk, Bruce Banner qui est toujours dans cette espèce de robot volant, le Rob, à voir sa création que le chronarchiste essaye de modifier afin d'empêcher Hulk de gêner ses plans. C'est sympa, mais vraiment, ça traîne en longueur. Je m'ennuie un peu. Alors, Hulk affronte plein de trucs, il va être modifié au fil de l'épisode, et on va voir différentes personnalités du Hulk. Le Hulk intelligent, le Hulk façon gris, donc Mr. Fixit. On va voir le Hulk façon...
Gladiator.
Gladiator, voilà, c'est ça, sur la planète Sakaar.
Ouais.
Mais quelle culture comique,
Valentin ?
On va voir
le Hulk et lunettes. Le Hulkette aussi.
Le Hulk façon Sakaar qui justement va affronter Fing Fang Foom, hein, donc autant lui faire affronter quelque chose de gigantesque. Alors, c'est toujours sympathique, il y a de bons délires, mais franchement, moi je commence à m'ennuyer, j'ai hâte qu'on arrive à la fin de cet arc parce que j'ai l'impression que ça, pour le moment, que ça n'a pas mené à grand chose, quoi. J'ai presque l'impression que c'est un peu délayé. Je suis un petit peu déçu par cet arc-là de Mark Waid, malheureusement.
Ah, les débuts étaient très drôles, pourtant.
Oui, oui, les deux premiers épisodes étaient vachement bons. On avait un Hulk qui affrontait des dinosaures.
C'est vrai que celui au Moyen-Âge n'était pas top, mais celui dans le Far West était pas mal.
Ouais, celui dans le Far West était sympathique. L'épisode précédent, c'était justement l'épisode Moyen-Âge avec Camelot et la légende du roi Arthur qui m'a un petit peu saoulé.
Ouais.
Et bien, celui-ci n'est pas vraiment mieux. Il y a guère que le cliffhanger qui est sympathique, mais on se doute bien que les choses ne seront pas modifiées à ce point-là, parce que sinon, ça n'aurait plus aucun sens. Donc, j'ai quand même hâte de voir la fin pour voir comment cette histoire va se démêler, mais un peu déçu, quoi. Donc, ce sera à peine un check-it. Voilà.
Ouais, ben c'est dommage, parce que Mark Waid avait un petit scénario sympathique, au fait, grâce à sa...
Ouais, je suis désolé.
Grâce au fait à cette retombée.
Je me rends compte que j'ai oublié Valentin qui l'avait lu. Donc, non, vraiment, mais vraiment, ce soir, c'est n'importe quoi.
Je suis d'accord avec toi, mais moi, comme je l'ai dit, je suis vraiment très fan des personnages alternatifs, des voyages dans le temps. Du coup, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est vrai que ça... Je me dis, il est temps que l'arc se finisse. Mais j'ai bien aimé les dessins. Et j'ai hâte de lire le dernier, mais il faut que ça se termine.
Je suis pas contre un personnage alternatif, personnellement, quand c'est bien mené, mais là, on sait très bien que ça devient tellement alternatif qu'on ne peut que revenir au statu quo.
Ouais.
Donc, on sait très bien que ça va revenir et que ça va revenir très vite, parce que là, il y a un tel changement dans le personnage que ça peut pas durer, même ne serait-ce qu'un arc de plus. Donc, finalement, on sait que c'est presque quelque chose pour rien. Ouais. Donc, moi, ça m'ennuie de lire quelque chose pour rien, quoi, honnêtement. Même si c'est une bonne histoire, là, on sent vraiment que c'est l'espace d'un épisode, quoi.
Mais moi, j'ai aussi bien aimé les petites touches d'humour qu'il y a dans l'épisode. Par exemple, la scène qui se passe en Égypte.
Il y a des bonnes idées, hein. Et de très bonnes idées. Autre chose qui pourrit un petit peu la narration, c'est justement tous ces monologues intérieurs de ce robot avec la conscience de Banner, qui sont pourris par des clics écrit un petit peu partout en plein milieu des mots, et ça en pourrit la narration, ça la rend très lourde, en fait.
Oui.
Et donc ça n'aide pas à ce que cet épisode passe tout seul.
Bah, honnêtement, moi, il y a certaines bulles que j'ai zappées, parce que c'est vraiment long, quoi. C'est...
Oh, ils zappent des bulles de comics, nous on le fait jamais.
Enfin bref, donc pour moi, un tout petit check-it, quoi.
Moi, quand même, un bail.
On va terminer notre partie Marvel avec la sortie du 9e épisode de Nova, Mister Nebony.
Oui, un épisode de Nova scénarisé par Zeb Wells et dessiné par Paco Medina. Alors bon, toujours très bien Paco Medina au dessin, vraiment très bon quoi. Mais par contre, d'un point de vue scénario, alors Zeb Wells, il est vraiment parti dans un truc, on a l'impression qu'on lit au fait un magazine plutôt Marvel Kids.
C'est toujours été depuis le premier épisode de Nova. Hein.
Oui. Bah,
même avec
moi,
Jeff
avant,
Lord,
je trouvais
comme ça.
Ouais, mais je trouvais que c'était rafraîchissant, que mais je sais pas, il y avait une espèce d'écriture qui faisait que certes c'était enfantin, mais pas pas trop non plus quoi. T'avais pas l'impression de lire un truc 100% Marvel Kids. Là, on a vraiment l'impression que c'est au fait Nova, c'est une porte d'entrée pour les tout jeunes lecteurs dans l'univers Marvel actuel. D'ailleurs, on va même le lier au crossover Infinity, comme ça leur donnera envie de s'intéresser au reste. Mais il y a un tel fossé entre Infinity vu dans Nova et Infinity vu dans le reste des titres Marvel que c'est pas possible quoi en fait. Je comprends pas leur démarche. Alors en même temps, c'est très simple. Nova qu'on a vu dans un épisode de Ultimate Spider-Man à la télé, donc forcément les enfants ont aimé et ils connaissent. Et donc, bah, ils espèrent que plein de jeunes lecteurs vont commencer à lire Nova et par la suite vont se mettre aux autres séries. Mais voilà, il y a un gros problème de différence entre les genres, entre les tons entre Nova et les autres titres, quoi, qui fait que je vois pas comment ils peuvent espérer ça.
Mais c'est bien pour ça qu'on a Sam Alexander et pas Richard Rider. Hein.
Et oui, et c'est bien pour ça qu'on a des versions aussi kids, j'ai envie de dire, d'un seul coup, de Speedball et de Justice.
Oui, bon. Chose qui mérite voilà. Le poil chaque mois. Quoi.
Moi, c'est pareil. Parce que...
C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas lu cette ce mois-ci, hein, ça m'a gonflé.
Bah, sinon, ça reste sympa, ça reste fun et frais, quoi. Mais c'est clairement plus orienté kids que les autres titres Marvel, ce qui est assez bizarre. Encore si c'était tout seul dans son côté Nova, ce serait pas gênant. Là, ça fait quand même partie d'Infinity, donc vraiment c'est un crossover super sombre, quand même super bourrin à côté, et je vois pas comment ils peuvent lier les deux quoi. En fait, je comprends pas la logique au fait de Marvel là-dessus.
Bah moi je la connais la logique, elle est simple, hein. Faire vendre.
Money.
Oui, ah, oui, d'accord, faire vendre, mais je suis pas certain qu'un jeune lecteur qui aime ce titre aimera ce qu'il ira à côté d'Infinity dans les autres titres, quoi. Il va se dire, oula, c'est quoi ce truc, c'est pas du tout pareil.
Tu allais dire, Bruno.
C'est Ken le survivant, quoi, à côté.
Ouais, j'allais dire, je l'ai feuilleté, j'ai pas eu le temps de le lire encore, mais j'ai halluciné par rapport à ce que disait Steve sur les versions jeunes un peu des personnages, puisque son Speedball fait la taille du héros de Nova, quoi. On a l'impression qu'ils ont 15 ans, quoi, Speedball et l'autre.
Ah, quand je le disais, je suis pas complètement fou non
c'était
plus.
C'était hyper, hyper flagrant sur la dernière page. Et j'étais là, mais personne lui a dit que voilà, les deux autres, ils ont un peu plus de bouteilles quand même. Enfin, je sais pas, c'est choquant, moi, je trouve le dessin.
Non, mais c'est pas simplement le vieux fan aigri qui gueule hein, quand je disais ça. C'est que là, ça, c'est tellement flagrant qu'au bout d'un moment, tu peux plus accepter ce genre de choses, quoi. Autant tu veux bien accepter que le personnage soit un peu rajeuni en fonction du dessinateur, mais là quand même, perdre quasiment 10 ans d'un coup, faut pas pousser. Et c'est surtout que perdre 10 ans autant physiquement, mais que dans les agissements. C'était ça aussi le problème.
Bah pourtant, paradoxalement, dans le scénario, ils sont adultes. Enfin, ils le disent quoi, que le Nova est mineur et que eux sont adultes.
Ça avait pas l'air d'être le cas, en tout cas dans les parties que moi j'avais lues. Hein.
Ah bah, là c'est précisé, enfin c'est clairement dit, ils font une vanne là-dessus. Mais bon, c'est leur représentation qui effectivement, t'as l'impression que c'est des gamins.
Valentin.
Bah moi, je vais apporter de l'eau à ton moulin, Steve, parce que j'ai beau être un entre guillemets jeune lecteur, enfin moi ça m'a énervé quoi, parce que moi les personnages de Speedball et de Justice, bah je les lisais dans Avengers Academy, ils avaient 20, enfin ils avaient l'air d'avoir 20-25 ans, et là quand j'ai lu le dernier numéro de Nova, pas celui-ci mais celui du mois dernier, ça m'a énervé de les voir de l'âge de Sam Alexander. Moi ça m'a vraiment énervé, moi qui aimais vraiment ces personnages là quoi.
Et ouais, malheureusement. Donc finalement, ton avis est plutôt mitigé, Benny, sur cet épisode.
Oh, sur cet épisode, ouais, c'est un épisode un peu faiblard, et puis vraiment trop, avec une narration vraiment trop, je sais pas comment dire, quoi, orienté jeune public pour un événement qui ne l'est pas du tout, quoi, finalement. Donc bon,
de toute façon,
ce sera un check-it pour moi.
De toute façon, le scénariste ne va pas rester longtemps puisqu'on sait que le titre sera repris par Gary Dugan d'ici 2 mois.
D'accord.
Donc on verra ce que ça va changer. Voilà, c'est tout pour Marvel. On va passer maintenant à notre partie digitale. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Bruno a lu un titre digital cette semaine. Ça s'appelle 13 Coins, numéro 1.
Oui, et c'est édité en fait uniquement en digital et uniquement pour l'instant sur les devices Apple. Et le premier numéro est gratuit, ça vient de Corinthian. Et alors c'est une équipe très intéressante puisqu'au dessin on a quand même Simon Bisley. Et c'est écrit par Can Muftik qui est un des screenwriters de Hitman Absolution, donc voilà, il travaille plutôt dans le jeu vidéo. Mais graphiquement c'est vraiment très très cool avec du Simon Bisley en grande forme, même si il y a vraiment une colorisation qui est très digitale, et du coup ça fait un petit peu bizarre, mais c'est vraiment très très beau. Sur mon iPhone ça rendait vachement bien. Une histoire, c'est pas trop étonnant pour du Bisley qui parle de démons, d'anges, donc il y a un gros background hyper intéressant avec une lutte entre justement des anges qui étaient censés protéger la Terre après la création des humains par Dieu. Et il y en a qui se sont rebellés parce que Dieu leur avait interdit de procréer avec les humaines. Et donc certains anges, qui sont appelés maintenant les Fallen, se sont rebellés, ils ont perdu. Leur chef a été emprisonné et 13 anges ont réussi à prendre des morceaux de la chaîne qui emprisonnait leur leader, mais ils ont réussi à s'enfuir avec. Ils ont fabriqué des pièces avec chacun de ces morceaux de chaîne, et en fait ça c'est emprunt du sang de leur leader, et du coup ça, à cause de ces pièces, il y a eu pas mal de maux qui se sont répandus sur Terre. Et en plus, comme ils se sont enfuis, ils ont pu avoir des enfants, ils ont créé des monstres, des sortes comme ils ont eu un héritage avec des monstres qui maintenant sont sur Terre et ressemblent un peu à des humains et sèment un peu le trouble. Et on suit en fait une équipe de flics un peu du surnaturel qui sont aux ordres des anges les bons, avec un héros qui ressemble énormément à Constantine. C'est vraiment hyper bien fichu, hyper intéressant. Pour du digital en plus, on a droit à une couverture sonore 3D. En fait, avec le doigt, on peut bouger et la couverture bouge. On a quelques planches aussi qui sont disponibles où on peut se déplacer avec le doigt et voir la scène sur plusieurs angles. C'est vraiment bien fichu. Et voilà, et le premier numéro est gratuit. Donc voilà, il faut avoir un iPad ou un iPhone, mais voilà, allez-y. Sachant que le deuxième numéro est également sorti, je ne l'ai pas encore acheté, mais il est à 2,70€. Donc ça a failli être mon coup de cœur de la semaine. En tout cas, une très très bonne surprise, et j'espère que ce sera édité en version papier plus tard.
Ouais, mais enfin, tu perds toutes ces petites possibilités que tu as avec le digital quand tu la sors en papier.
C'est vrai, pour les bonus, mais graphiquement, ça reste quand même très très bon, et ça pourrait bien rendre quand même sur du papier.
Bah ouais, mais enfin, en même temps, le digital qui est prévu pour du digital, pour moi, devrait rester en digital, c'est tout. Enfin, on n'a pas besoin d'une version papier.
C'est vraiment, il y a quelques planches qui sont comme ça, parce qu'après, c'est pas de la lecture turbomédia. C'est-à-dire qu'on a, on peut pas voir case par case, c'est vraiment comme des planches de comics. Donc il y a vraiment juste la page d'intro, la page de fin et 2-3 panoramas où en fait on peut vraiment bouger. Sinon le reste c'est vraiment une format comics classique. Mais
je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on n'ait pas besoin de sortie papier, puisque faut penser aussi aux gens qui n'ont pas de tablette d'iPad ou d'iPhone.
Enfin, je veux dire ceux qui n'ont pas de tablette et pas d'iPhone, enfin le marché est quand même largement assez grand pour pouvoir avoir de quoi lire, non?
Ah oui, mais je trouve ça. Ah bah oui, bah je trouve ça dommage quand même de se priver de certaines séries dans ce cas-là.
Ah bah ouais. Parce que ouais, mais enfin, ça sert à rien d'essayer d'imposer un format digital si c'est pour le ressortir en papier. Enfin, pour moi, c'est vraiment contre-intuitif, quoi.
C'est pas pareil, puisque bah comme tu dis, t'as quand même des différences, quoi, du coup.
À défaut, moi, d'une sortie papier, je militerais plutôt pour une sortie Android. Que ce soit.
C'est la première chose, oui. Ça,
tous les devices, quoi, parce que
sur Comixology, que ça soit multiplateforme, parce que là, franchement,
c'est vraiment vendu sous la forme d'une application, en fait. Tu télécharges une application, et dans cette application, t'as le premier numéro gratuit qui fait quand même plus de 20 pages.
Ça, j'aime bien, par contre.
Et après, tu peux télécharger dans l'application soit des bonus, soit les numéros suivants, sachant qu'il y aura un numéro par mois et c'est une mini-série qui sera en 6 numéros. Voilà. Mais franchement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé.
En tout cas, le fait qu'il y ait un nom tel que Simon Bisley dessus risque d'apporter énormément d'aura à ce projet.
Tout à fait.
Pourquoi pas. Donc un gros bail, si on peut dire, finalement.
Ouais, sachant que c'est gratuit, mais oui.
On passe à notre partie indé avec un numéro 1 cette semaine, c'est Velvet Flo.
Oui, comment vous dire tout l'amour que je porte dans ce numéro 1. Velvet, écrit par Ed Brubaker, donc son dernier projet en date, dessiné et ancré par Steve Epting et des très belles couleurs d'Elisabeth Breitweiser. Nous sommes à Paris et en Angleterre en 1973 et un agent d'une agence gouvernementale ou internationale, on ne sait pas trop, basée à Londres, se fait assassiner. Cette agence s'appelle l'Arc 7, c'est l'agence la plus secrète du monde que personne connaît, c'est les meilleurs espions. C'est le top du top que même les meilleurs espions des autres agences ne savent pas que eux c'est des espions de l'Arc 7. Donc c'est le top du top. Et en 1973 à Paris, un des agents se fait assassiner. Et on va suivre en fait l'enquête de l'Arc 7 pour essayer de délucider ce mystère, puisque ça arrive très très rarement que des agents aussi bons se fassent assassiner comme ça de sang-froid. Et on va avoir un focus surtout sur le personnage de Velvet Templeton, qui est secrétaire au bureau de la direction, du directeur de cette agence. Une secrétaire plus quand même, puisqu'elle a toutes les autorisations, et on sent bien qu'elle a pas fait secrétaire toujours, tout le temps dans sa carrière, et qu'elle a quand même un gros passif dans cette organisation. Et voilà, donc elle va enquêter, et on va suivre ses aventures. Je vais pas vous en dire plus parce que le mystère s'épaissit, il y a beaucoup de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de l'espionnage. C'est une série d'espionnage très réaliste, très très belle, avec un personnage de Velvet Templeton qui a un charisme énorme. C'est simple, quand je l'ai vu dès la page 4, hein, dès la double page qu'il a, avec cette double page où on la voit en buste, j'ai presque vibré comme quand on vibre au cinéma, quand on a un acteur ou une actrice qui a une présence vraiment impressionnante au cinéma et qu'on en est complètement scotché. Et ben moi c'était pareil, mais sur un comic ça m'est arrivé rarement, mais honnêtement la manière dont elle est dessinée, dont elle est caractérisée, j'ai tout de suite été soufflé par ce personnage et j'ai tout de suite eu envie de le suivre. Non mais vraiment, au niveau de son caractère et au niveau du chara-design, superbement représenté.
T'es amoureux de la femme d'Ed Brubaker, je crois, parce que je crois qu'il a basé le modèle du personnage sur sa femme.
Ah ouais, bah peut-être alors. Mais en tout cas,
t'as eu envie de la démonter en fait.
Non, je n'irai pas jusque là tout de même. Mais non, c'est super bien dessiné par Steve Epting avec des très belles couleurs,
dit ça
très sombre.
C'est très spécial au directeur.
C'est très réaliste.
Qui a un look très Robert De Niro.
Il y a des ambiances à la James Bond, mais aussi à il y a pas que du James Bond. Bah déjà il y a des hommages, il y a quand même il y a les aspects smoking machin etc, et puis on est dans les années 70,
leur nom de code aussi.
Ouais,
le nom de code des agents qui ressemble beaucoup à 007
avec des chiffres, voilà.
C'est Money Penny quoi,
c'est juste Money Penny Paris avec
qui sait se battre quoi.
Ouais, c'est une genre de Money Penny.
C'est Money Penny avec des couilles.
Ouais. On voit les 4L de la gendarmerie française, on voit des Jaguars type E, on voit des Mustangs avec plein de gadgets. Enfin, c'est assez excellent, mais c'est plus que juste une histoire d'espionnage un peu superficielle comme ça. C'est vraiment, ça a l'air vraiment très profond et waouh, j'ai été vraiment soufflé par ce premier numéro.
Ben moi pas du tout.
Ah bon.
Ah, et moi c'est étonnant. C'est je suis entre vous deux. Alors je sais pas qui commence.
Moi je vais juste terminer parce que du coup moi je suis tout à fait d'accord avec Flo. J'ai adoré ce numéro. Je trouve le personnage de Velvet est vraiment très intéressant dès le premier numéro. Il y a pas mal de secrets, de machinations, l'agence. Bah, moi j'ai vraiment vu beaucoup de James Bond dedans. Hein, donc ça je suis tout à fait d'accord avec Bunny. Mais non, moi j'ai adoré et j'ai vraiment envie de voir la suite. Et il y a un bon petit cliff. Donc ouais, je suis étonné. Je pensais que ça allait te plaire, Steve.
Non, mais en fait, moi, je me suis un petit peu beaucoup ennuyé, en fait. Je trouve que ça n'avance pas, la narration, je l'ai trouvée super lourde pour du Brubaker. Ce personnage de Velvet m'a fait penser à Executive Assistant Iris.
Oh, énormément. Arrête.
Ah si, si, énormément. Franchement, relis Executive Assistant Iris. Quoi.
Ah, bah, je l'avais lu il y a pas longtemps, justement. Et c'est,
justement,
ça
c'est pour
voir,
ça
quoi.
Que ça m'y a fait énormément penser. Mais bon, après, c'est pas une mauvaise chose hein, que ça fasse penser à autre chose, mais c'est juste que, je sais pas, j'ai du mal à accrocher, je trouve ça lent, mais lent, et cette narration, mais super lourde, de cette secrétaire pute, qui se tapait tout le monde, hein, excuse-moi, mais voilà. Bon, tu sens qu'elle a des secrets, mais en fait, le problème, c'est que
ouais, mais
sur
bon,
le premier
à ce
épisode...
moment-là, James Bond, c'est une pute aussi. Hein.
Attends, c'est extrêmement sexiste ce que tu viens de dire, quand même, Steve. Je tiens juste à le faire remarquer. Non, mais vraiment, là,
c'est dit dès les premières pages par l'agent qui se fait tuer, qui se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de louche avec elle, puisqu'ils ont tous couché avec elle et qu'elle apprend plein de secrets comme ça. C'est dit dès les premières pages.
L'agent qui est mort a couché avec tout le monde, surtout.
Oui, mais il s'est rendu compte que surtout elle aussi, elle couchait avec tout le monde et manipulait un petit peu tout le monde comme ça. Donc bon, moi je sais pas. En fait, si tu veux, c'est vraiment le truc commence sympa. Alors peut-être aussi que votre amour pour James Bond fait que vous avez adoré.
J'ai
moi,
pas
j'aime
spécialement
pas
d'amour pour James Bond, mais vraiment, j'ai pas du tout d'affinité avec le roman d'espionnage ou avec le film d'espionnage.
Ah, moi de toute façon.
Mais Daniel Craig, t'es sûr que t'as pas. Oh,
moi j'ai
vu avec Daniel Craig.
J'aime bien James Bond et c'est vrai qu'il y a plein de clins d'œil avec la voiture, avec les gadgets et tout. Ils ont repris ce genre de poncif un peu du roman d'espionnage des années 60. Et moi, j'ai trouvé ça cool.
Moi, en général, James Bond me fait chier. Donc voilà, il y a aussi ça peut-être qui a fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais c'est vraiment toute cette narration qu'elle fait qui, je trouve, alourdit énormément la chose. Et j'en ai pas assez pour avoir envie d'aller voir le deuxième épisode. Voilà, tout simplement. Donc moi j'étais un peu déçu quoi. Alors par contre les dessins de Steve Epting effectivement sont sublimes.
Mais en forme.
Sublime.
Valentin tu l'as lu?
Ouais je l'ai lu et moi j'ai été le voir parce que c'est Brubaker et Epting, c'est eux qui avaient fait le run sur Captain America dont je suis très 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 fan et j'ai bien aimé mais c'est pas le genre que j'apprécie le plus en comics. Du coup, je pense pas aller voir la suite, mais c'est un bon numéro pour ceux qui sont fans du genre d'espionnage. Le cliffhanger est pas mal, mais j'ai pas été déçu, mais je m'attendais peut-être trop à le même style que... Enfin, à la même chose que le run de Captain America.
Brubaker voulait faire il voulait faire de l'espionnage avec Captain America, hein, il s'en est pas caché. Là, il peut y aller à fond son truc. Quoi.
Justement, je trouve que c'est, enfin, moi, j'ai trouvé ça très proche du run du travail qu'il a fait sur Captain America.
Ouais, c'est
ça. En fait, en gros, j'ai trouvé que ça, c'était Brubaker qui voulait écrire un petit peu sur la mythologie de James Bond sans pouvoir l'écrire. Donc il s'est créé sa propre agence à la James Bond et puis il a fait un petit peu une intrigue qu'il fait en général, c'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve dans une situation qu'elle ne contrôle pas et qui va se retrouver au cœur d'un complot. En gros, c'est toujours à peu près au fait ce qu'il fait sur Criminal, sur tout ce qu'il fait quoi. En fait, c'est un petit peu ça. Alors, il y a une femme fatale donc qui est Velvet, qui est aussi un petit peu la veuve noire.
Ouais, la Black Widow, hein, complètement.
La Black Widow, totalement. En fait, voilà, et j'ai trouvé que c'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, je dirais sans doute la suite. Mais il y a pas de quoi sauter au plafond. Et alors, c'est pour ça que quand tu disais Florent, elle a un charisme énorme. Vraiment, j'avais des points d'interrogation au-dessus de la tête, quoi. Comme
non, mais elle a pas un charisme comme une Black. C'est pour ça que je trouve pas du tout qu'elle ressemble à Black Widow, à part qu'elle sait se battre, et que c'est une femme.
Elle est totalement vierge de tout charisme et de tout. Enfin, non, c'est une page vierge, là. Ça, franchement, c'est l'archétype même l'agent secret, sexy.
Non, mais justement, je trouve pas qu'il y a d'emphase spéciale sur le sexy, mis à part que oui, elle s'est tapée des mecs dans l'agence, mais il y a pas d'emphase dans le comics même, dans les dessins, les trucs comme ça. Pour moi, c'est pas ça qui fait son charisme, mais c'est pas un charisme à la Black Widow, un peu comme ça, à sortir des catchphrases comme ça. C'est pas un charisme de statue grecque.
La Black
Widow,
c'est pas que sortir des catchphrases. Hein. Costume moulant en cuir, ouais, c'est le côté je sais me battre, j'ai pas besoin d'un mec, et j'ai pas besoin qu'on me défende, en fait, c'est ça.
Oui, mais là, on sent qu'elle est plus réservée comme femme, quand même, Velvet. Enfin, je sais pas, c'est un personnage plus nuancé, et... Enfin, voilà, moi j'ai été conquis totalement.
Je suis d'accord.
Il y a pas... il y a pas, non, il y a des poncifs de l'espionnage, mais ça tombe pas dans la caricature, je trouve, et il y a quand même des nuances qui font que ça reste un récit original, je trouve. Et que c'est pas juste une parodie de comics d'espionnage des années 70.
C'est pas une parodie, c'est juste un hommage. J'ai trouvé ça bon sans être excellent, sans être, on va dire, novateur, quoi. C'est pas un truc, je me suis pas dit, tiens, je suis en train de lire un truc qui va révolutionner le genre et vraiment l'un des meilleurs travaux de Brubaker, quoi. Je me suis dit, je suis en train de lire encore une histoire de Brubaker. Alors, c'est encore très bien, mais c'est encore une histoire de Brubaker de plus, quoi, j'ai envie de te dire. Enfin, je sais pas comment le formuler mieux que ça, mais j'ai passé un bon moment, mais sans plus, quoi.
Eh bien, c'est l'heure de passer aux notes. Pour ma part, ce sera un check it.
C'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai été totalement soufflé.
Check it plus, ouais. Pour moi.
Moi, c'est un putain de gros bail. Hein. J'ai adoré. Ouais.
Moi, c'est un petit bail avec une réserve sans plus, quoi.
On va passer à la suite, toujours chez Image. C'est la sortie du deuxième épisode de Sex Criminals, Valentin.
Oui, donc écrit par Matt Fraction et dessiné par Chip Zdarsky. Donc on retrouve le couple qu'on avait laissé au fin du premier numéro. Et on passe à l'origine du mec qui explique comment il a découvert son pouvoir, qui est de quand il fait l'amour ou quand il a du plaisir de friser le temps.
Non, c'est quand il est là, tu vois. C'est pas quand il fait l'amour.
Ça peut donc marcher tout seul.
Oui.
Ah non, mais c'est un gros changement, je trouve, pour le pouvoir. Il n'y a pas besoin d'être à deux.
Ah ben non, mais dans le premier numéro déjà, la nana, quand elle avait un orgasme, même seule, elle frisait le temps.
Ah oui, non, c'est que j'ai pas encore eu le temps de rattraper le numéro 1, donc, mais j'avais pas compris ça justement dans la dernière review.
Les effets sont encore plus décuplés s'ils ont un orgasme en même temps en faisant l'amour. Ça dure plus longtemps le freezing.
Les effets sont encore plus pervers. Hein.
Et là du coup lui découvre son pouvoir en se masturbant
sous la douche, j'imagine.
Non, dans son lit. Et
la précision ultime.
Bon, on peut dire que c'est un branleur, quoi, ce super-héros.
Enfin, c'est pas vraiment un super-héros parce que comme on peut le voir au cours de du numéro, il va se servir de ses pouvoirs pour aller à explorer sa sexualité, et quoi de mieux pour explorer sa sexualité que d'aller dans un sex shop. Et donc on va voir ce garçon qui a à peu près 12-13 ans aller dans le sex shop et voir toutes les cochonneries qu'il peut y avoir.
Oh, on a tous fait ça.
Oh. T'es pas moi.
Non, pas tous.
J'allais dire, moi ça m'a étonné ce qu'il vient de dire, Valentin. Quoi de mieux que d'aller explorer sa sexualité dans un sex shop? Mais attendez, quand vous aviez 13 ans, vous êtes allé explorer votre sexualité dans un sex shop?
Mais j'étais déjà tenancier d'un sex shop à 13 ans, monsieur. J'avais ma propre entreprise à cette époque.
Non, à l'époque, il y avait vidéo 7 ou je sais plus quoi, là, le truc où.
Ouais, enfin, généralement, on se cache plutôt quand on est jeune.
Ça s'appelait Bruno.
Non, mais voilà.
Non, ça, c'est vraiment le truc porno, ça. Moi, je parle de vidéo 7, le truc sur le cinéma où t'avais des DVD, les sorties cassettes vidéo. Mais à l'intérieur, t'avais un classeur où il fallait couper pour pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur.
Ah oui, le truc avec que des jaquettes.
Tu vois ce que je veux dire?
Tu faisais pas ça devant tout le monde. Tu faisais pas ça devant tout le monde. Mais non, généralement, on se planque.
Mais non. Là, le personnage, comme il a le pouvoir de friser le temps et qu'il a vu justement ce sex shop, il a voulu découvrir un petit peu plus et donc il y allait dedans, en fait. Donc,
en ayant frisé le temps.
Lui, comme il peut aller n'importe où, il y va. Et donc on suit son apprentissage, entre guillemets. Et au parallèle, on suit aussi le entre guillemets braquage que le couple fait avec des personnages qui pourraient apparemment bouger dans leur bulle temporelle,
qui ne sont pas touchés par les effets du freezing, en fait. C'est très très mystérieux.
Et donc moi j'ai vraiment adoré ce comics. Il est à mourir de rire. Le sex shop, quand il découvre son pouvoir, voir le sperme qui est frisé dans le temps.
Mais ce sont des images que je me serais bien passé, tu vois.
Dit-il avec un rire de jeune pervers.
Non, c'est très très drôle.
Il y a plein de choses. Par exemple, sur la page de crédit, il y a marqué Vous êtes en train de lire Sex Criminals, Like a Boss, Like a Boss of Paying a Pervert. C'est juste énorme. La page des Previously, ouais. La quatrième de couverture, il y a marqué For Mature Readers, duh. Donc c'est.
En fait, c'est un objet total. On sent que c'est vraiment le bébé de Fraction, parce que c'est un objet total, parce que ouais. De la couverture. Du premier de couverture à la quatrième, c'est il y a des trucs partout quoi. For mature readers,
j'ai très peur.
There's like an entire scene that takes place in a sex shop. c'est ce que le mec il dit ça à la fin. Fais gaffe. Le previously est à mourir de rire. Tout dans les décors de Chip Zdarsky, il y a des trucs marqué partout dans le sex shop, c'est hilarant parce qu'il y a plein de références partout sur toutes les jaquettes, tous les trucs, c'est juste trop drôle quoi. Il y a des trucs totalement what the fuck, un peu comme les dessins des positions sexuelles là dans le numéro 1, complètement avec le twerking et tout.
Bon, faut que Sam lise ça au fait.
Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand même la poupée gonflable. Vous lirez si vous verrez si vous lisez le numéro, mais c'est, je crois que le truc qui m'a fait le plus rire, c'est ça. Et pour moi, ça me fait dire que bah Fraction, il est beaucoup mieux sur de l'indé entre guillemets. Bah par exemple sur Okai, qui est plus une série indé pour moi, sur Sex Criminals. Et moi, j'ai vraiment hâte de lire la suite de voir le prochain numéro, parce que je me suis retenu de rire à certains moments pour pas que tout le monde, enfin que tout le monde chez moi entende mon rire, parce que c'est
voit ça,
c'est
et voit que t'es mineur et te l'enlève des mains.
je sais mineur, j'ai 19 ans, j'ai le droit de le dire.
Non mais
c'est comme si c'était une excuse. Tous les États des États-Unis,
on va pas tout raconter, mais en gros c'est très bien. Il y a un truc sympa, c'est qu'il y a quand même 5 pages de courrier des lecteurs. Avec des sex tips très drôles. Chaque courrier est vraiment très très bon, très drôle. Il y a un courrier, c'est un mec qui demande où est le clitoris. Et il y a Chip Zdarsky qui lui fait un petit croquis totalement débile, mais vraiment très très drôle. La réponse c'est the what. Et c'est excellent. Même à un moment, il y a une photo à la fin de Matt Fraction qui se fait percer les tétons en fait, parce que ils ont fait une lunch party, une release party dans un sex club à Toronto avec Chip Zdarsky et Matt Fraction et apparemment il s'est fait percer les tétons en direct pour la release, il y a une release party. Ça a l'air assez drôle.
Ce qui est marrant, c'est que finalement
il a vraiment donné de sa personne, donc
ouais.
Les deux parmi nous qui apprécient plus tout ça, c'est quand même les deux plus jeunes. Mais vous avez encore des choses à apprendre, c'est normal.
Non, non, vraiment, vraiment très très bien. Très très
ça
bien.
Ça c'est fait.
Ah, c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est un bon gros gros bail. Courez-y parce que c'est juste excellent.
Ouais, très bon.
Mais attention, courez-y, mais pas l'engin à la main, sinon vous risquez de vous faire mal.
Il ne faut pas lire ce comics la main dans le pantalon, parce que ça salit après.
Ah, oh. Parlerais-tu d'expérience ?
Non, non, du tout.
Bah du coup tu me tends la perche, moi je la prends. Nous allons passer à notre dernière review indé, j'espère peut-être plus sérieuse. Bruno, je t'en prie,
oui,
Pretty Deadly numéro 1.
C'est ça, et c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est écrit par Kelly Sue DeConnick avec des dessins des Marios, des couleurs.
Ah, putain. Benny va gueuler, Benny va gueuler. Attention.
Oh putain.
Des couleurs. De
déjà les dessins des Marios.
Donc c'est un super comics, c'est super beau. Alors faut aimer Marios, hein, mais c'est quand même plus clair que d'autres comics qu'elle a pu faire. Comme je crois le dernier que j'avais lu récemment, c'était un season one. J'avais pas trop aimé son season one. C'était, ouais. C'était comment il s'appelle, le Doctor Strange. Là,
j'étais
c'est quand même
pas trop
clair.
Fan de son style, hein, perso non plus.
Là c'est quand même beaucoup plus clair et il y a une belle inventivité à chaque fois dans les cases, dans la mise en scène. Non, c'est super beau et les couleurs sont impec aussi, hein, donc Jordi Belair. Le pitch,
un comic entièrement féminin déjà.
C'est ça, voilà, c'est une équipe 100% féminine et qui va nous parler d'une. Ça se passe au Far West pendant le western, enfin, ça se passe au Far West. c'est un western, mais avec un côté un petit peu mystique, puisque sur la couverture on a un personnage qui ressemble un peu à la mort et en fait on sait pas encore à la fin du comics si ce personnage existe réellement ou si c'est un mythe. Ça commence avec, on suit une troupe de théâtre qui se déplace de ville en ville. On a un homme qui est aveugle, qui est avec une petite fille qui a une tenue faite d'un vautour, des plumes d'un vautour. Et en fait, ils vont de ville en ville pour raconter justement la légende de cette femme qui est en fait l'enfant de la mort. Et bon, il y a tout un petit spectacle qui attire à chaque fois les foules. Et la gamine, elle est prise à partie par le shérif de la ville, qui à un moment la chambre un petit peu. Et du coup, elle lui pique un truc qu'il avait dans les poches. Et après, ils repartent, ils vont sur les routes. Et elle avait pris un cahier et tout. Et ils avaient froid, alors du coup, ils font un feu. Et ils commencent à brûler ce cahier. Et là, les flammes font une couleur un peu bizarre. Et l'homme se dit, où est-ce que t'as trouvé ce papier? Et après, il y a toute une histoire qui se lance sur l'origine de ce dossier, en fait, qui contenait des papiers un petit peu bizarres. Et on a une femme chasseuse de primes qui s'appelle, je crois, c'est non, Ginny, c'est le nom de la fameuse enfant de la mort. Enfin, c'est une nana qui ressemble un peu à la fille qu'on voit en couverture, mais qui a pas ce côté zombie, qui part à la recherche justement de ce dossier qui a été perdu. Et voilà, il y a l'homme qui est aveugle. On a l'impression qu'il sait beaucoup de choses. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont développées dans ce premier numéro. Ça se lit vraiment avec plaisir et une super lecture, une très bonne ambiance. Bah, vivement la suite hein, pour en savoir plus sur justement sur la réalité ou la fiction par rapport à ce personnage de Ginny, l'enfant de la mort. Mais j'ai adoré.
Un comic que j'avais vraiment envie de lire, notamment après avoir vu les pages preview des Mario, ce que je trouvais superbe, et que malheureusement j'ai vraiment manqué de temps encore une fois cette semaine pour pouvoir le lire. Mais ta review me confirme dans le fait que je pense passer un bon moment.
Ouais, donc un gros bail.
Bah, je sais pas, Déconique, peut-être qu'elle devrait se contenter de justement de faire des projets indés, hein, et pas du super-héros, puisque bon, sur le super-héros en tout cas, de ce que j'ai lu, voilà.
Donc, gros bail, ton coup de cœur de la semaine, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Eh bien, on va maintenant passer à la partie d'essai. Et on commence avec toi, Mister Onobeni, qui va nous parler du Justice League numéro 24.
Ouais, Justice League numéro 24 par Jeff Jones et avec des dessins d'Ivan Reis. Il y a aussi du Joe Prado, mais alors je ne sais plus si c'est à l'ancrage.
Oui, c'est à l'ancrage.
C'est à l'ancrage, voilà. Parce que forcément les crédits sont à la fin et pas au début du comics. Déjà on assiste aux origines un petit peu d'Ultraman. Origine un peu poussive, un peu ridicule. Hein, quand
oh
même.
Non, oh, elle est génial.
Ah si, ah si si.
Ah non, elle est très
bien. Un peu poussive et ridicule. C'est-à-dire que c'est drôle. Oui bah c'est ça, exactement. C'est ce qui m'a fait énormément rire. Mais ça me ferait rire dans du Deadpool. Mais là, franchement, dans l'univers Marvel, dans l'univers DC, pardon, les origines d'Ultraman, bon, je veux bien que, enfin, je vois très bien l'univers duquel il est. Oui, d'accord, mais c'est un peu ridicule, c'est un peu poussif. Quand on voit aussi ses parents adoptifs,
ils sortent de Breaking Bad, les parents, c'est génial.
Le mec atterrit au moment où ils sont en train de s'entretuer. Enfin, faut arrêter quoi. C'est un petit peu poussif, un petit peu exagéré quand même.
Ouais, tu sais, à partir de ce moment-là, un mec qui vole, c'est poussif. Hein.
Non, moi, je trouve ça fun. Hein.
Ouais, je trouvais ça très très fun.
Oui, non, mais c'est. Bah oui, c'est fun, mais encore une fois.
Je trouve ça bien, moi perso, que ce soit fun, contrairement à tous ces derniers épisodes qui étaient franchement longs et chiants, avec un Jeff Jones qui se prenait énormément au sérieux et pour faire de la merde. Là, au moins, il s'est fait plaisir et il nous fait plaisir en même temps avec un truc fun, décomplexé, bien dessiné, bien évidemment, avec du Ivan Reis, mais surtout qu'on a un truc décomplexé qui nous explique un peu les origines de ce perso. Je trouve que ça fait le job, quoi. Enfin,
et fun, il y a du fun, mais il y a du malaise aussi, surtout par rapport à ce qui se passe avec un des personnages qui gravitent autour de Clark Kent. Sa version alternative avait l'air d'être
bien. Attends, il n'y a pas que ça en fait. Je peux quand même raconter la suite de l'épisode. Donc, Ultraman, donc déjà, première partie, donc les origines d'Ultraman. Qui, alors, deuxième complainte quand même, il aurait pu nous raconter ça, au moins c'était un truc intéressant raconté durant le Villains Month. Pas maintenant, quoi.
C'est vrai,
parce que.
Oui.
On aurait pu déjà avoir ça dans le Villains Month.
Je suis d'accord. Bon.
Et deuxième partie, donc c'est Ultraman qui va confronter Jimmy Olsen et de toute façon Lois Lane, enfin tous les gens dans le Daily Planet. Une confrontation assez musclée, donc là il bien rentre dedans et il est interrompu par quelqu'un. Bon, je n'ai pas envie de le dire d'ailleurs.
Ah bah non, vous
même
pas,
si.
Oui.
Je veux dire que cette confrontation est menée de main de maître.
Mais j'ai bien aimé, moi, globalement.
Mais c'était une vanne, en fait. Hein.
Oui, oui.
Ouais. Mais non, mais j'ai bien compris. Mais c'est en fait, c'est quasiment mon coup de cœur cette semaine, paradoxalement. Même si, encore une fois, j'ai trouvé la première partie assez poussive et ridicule quand même sur Ultraman. Voilà. Non.
Flo, tu moi, t'es... Je... Oh, pardon, vas-y, Valentin.
Moi, je suis pas d'accord avec toi, Benny, parce que moi, au contraire...
Bon, alors, c'est pas mon coup de cœur si t'es pas d'accord.
j'ai trouvé les origines du personnage, justement, vraiment totalement différentes de Superman, et c'est ça qui fait que c'est génial, quoi. Si ça aurait été des origines similaires à Superman, mais qu'il y aurait juste un petit truc qui aurait changé, ça aurait pas été aussi.
Ah, mais ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, on sait que c'est les origines inversées. Mais, enfin, il y a une manière de les raconter, et là, c'était vraiment exagéré, je trouve.
Et moi, pareil, les dessins, je les trouve sublimes de Ivan Reis. J'ai vraiment bien aimé aussi les différences, justement, avec notre monde. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce numéro de Justice League.
Flo ?
Oui, très très bien. Ça faisait, c'est du très bon Geoff Jones, je trouve, dans ses meilleurs numéros, je trouve. C'est très fun à lire, ça se lit très bien, mais il y a quand même du drame, il y a quand même des subplots. On sent qu'il se fait plaisir avec Ultraman, parce que, quitte à avoir des versions alternatives dans une terre inversée, autant y aller à fond, quoi. Ça, je trouve pas ça plus ridicule qu'un mec en bleu qui vole avec un S sur la poitrine. C'est non, c'est très bien écrit, c'est très très beau. La race est dans un registre qu'on voit moins, c'est-à-dire dans un registre, bon, il y a du super-héros, mais c'est quand même beaucoup plus sombre que la Justice League, les numéros de Justice League précédents. Je trouve qu'il s'en sort très bien aussi sur des registres très sombres. C'est du tout bon. Moi, j'ai trouvé ça très fun et ça fait un bon tie-in et je pense, enfin, c'est une lecture plutôt indispensable pour Forever Evil.
Ouais.
Bruno ?
Oui, pour moi c'est le meilleur numéro de Forever Evil. Hein. C'est pas la mini-série Forever Evil, mais c'est enfin on apprend plus sur justement Ultraman et les autres sur leur monde. Il y a, comme l'a dit Flo, hein, beaucoup de subplots qui sont introduits, peut-être des équipes de personnages qui vont apparaître par la suite, qui sont intéressantes. Mais
justement, moi c'est vraiment ce que j'ai retenu presque de ce numéro, la Doom Patrol.
Hey. Oh, spoiler.
Vous me confirmez qu'on ne l'avait pas vu apparaître auparavant?
Non.
Elle n'est pas encore apparue dans les New 52.
Mais je veux dire, c'est la première fois qu'on en fait mention.
Et voilà. Puis un super cliff, un combat de fin qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà, super numéro.
Moi, j'ai juste un problème avec ce numéro. C'est que là, si Lois et Jimmy n'ont toujours pas compris qui était Superman. Franchement, d'habitude déjà qu'ils ont les yeux un peu bouchés de merde, mais là quand même c'est flagrant. C'est vraiment flagrant, quoi. S'ils comprennent toujours pas, on peut plus rien faire pour eux, vraiment.
Ils auront leur mémoire effacée par un coup de magie de Zatanna ou un truc comme ça.
Je sais pas, mais enfin bon, là quand même, ça me paraît gros pour pas qu'ils s'en rendent compte, quoi. Enfin, on a vu déjà tellement pire après tout, pourquoi pas. Hormis ça, le numéro est excellent. Vraiment, j'ai passé un bon moment et je m'attendais pas à passer un si bon moment avec du Justice League. Je me suis dit, bon, allez, je vais le lire parce que c'est Justice League, parce que c'est Forever Evil, on va bien voir ce que ça donne. Mais je partais tellement, tellement défaitiste et, grosse surprise, quoi. Grosse surprise. Très, très bon Geoff Jones, ouf. Ça fait du bien de voir qu'il est encore capable un peu d'écrire. Donc pour moi, gros bail. Hein.
Ouais, très bon bail.
Bail aussi.
Valentin.
Ouais,
bail
du coup.
Benny?
Oui, coup de cœur, hein, de toute façon. Donc,
oui, coup de cœur, effectivement.
Plébiscite total.
Coup de cœur, mais je vais juste te donner un check-in.
Autre Justice League de la semaine, c'est Justice League Dark, le numéro 24, Flo.
Oui, premier numéro de Jean-Michel de Mataïs, alias JM de Mataïs.
Jean-Marc, je crois qu'il s'appelle.
Jean-Michel de Mataïs, hein. Dessiné toujours par Michael Ranin, qui est toujours qui tient bon la barre, tient bon le vent sur la série. Très beau Michael Ranin, hein, comme d'habitude, c'est vraiment très bien. Donc premier numéro, il prend la suite de Ray Fox et c'est tie-in plus ou moins Forever Evil et ça lance ce crossover Blight qui va toucher les séries Pandora, Phantom Stranger et Justice League Dark. Juste après Trinity War, Constantine se réveille dans la House of Mystery, donc le QG de la Justice League Dark, tout seul, il sait pas où sont où les autres sont partis et il va un petit peu se faire balader par la House of Mystery pour voir un petit peu ce qui est arrivé au monde et il va constater des choses étranges. Comment expliquer ? Il y a des genres
des choses mystérieuses.
Il y a comme une petite fumée noire qui s'échappe des gens quand ils font des choses mal. Et tout ça semble nourrir le mal.
C'est des pets.
C'est des evil farts. ça a l'air un peu ridicule comme je dis, mais en fait c'est plutôt bien mené et bien écrit, cette petite balade à travers les quatre coins du monde. Une balade un petit peu hallucinée de Constantine, qui lui aussi essaie de remettre ses souvenirs en place par rapport à la Trinity War, etc., revoir ce qui s'est passé, essayer de retrouver Zatanna aussi. Et voilà, il y aura l'apparition dans le numéro d'un personnage créé par De Matteis dans Phantom Stranger, apparemment dans quelques numéros précédents, une nurse un peu curieuse.
Ah oui, la fameuse,
peut-être. Et voilà, j'ai trouvé le début de Matteis plutôt pas mal, et c'est plutôt bien écrit. Il saisit bien le personnage de Constantine. C'est ce que j'aimerais bien voir écrit, à la limite dans une série Constantine.
Bah, De Matteis n'est pas un débutant en ce qui concerne les séries magiques à tendance sombre, hein, de toute façon.
C'est bien écrit, quoi. C'est pas passionnant ce qui se passe, mais c'est quand même solide, quoi. Je trouve ça meilleur que ce que faisait Ray Fox. C'est un autre ton que Jeff Lemire. Voilà.
Je suis d'accord avec toi, Florent. C'est pareil, moi j'avoue que j'ai bien aimé la mise en place, entre guillemets, du crossover Forever Evil Blight. Mais c'est vrai que j'étais un peu paumé à certains moments. Je voyais pas trop où il voulait en venir, et à la fin on comprend tout. Donc j'ai bien aimé le numéro, mais j'étais un peu perdu au début.
Oui, c'est très beau. Bien, vraiment bien. Je pensais arrêter la série après Trinity War, et je vais peut-être voir un petit peu la suite de Matteis.
Rappelons que c'est un crossover qui a été décidé totalement à la dernière minute, c'est pour ça qu'il n'est même pas marqué sur la cover.
Par contre, dans l'histoire, ça a l'air de bien se tenir, quoi. Enfin bon, c'est le tout début, c'est vraiment les prémices, mais ça a l'air de bien se tenir. J'ai l'impression que De Matteis sait ce qu'il fait. Voilà.
Moi, je crois que c'est le principal, hein.
Oui. Une bonne histoire.
Donc, finalement,
C'est un bon check-it, une bonne surprise.
Check-it plus pour moi.
On passe à un autre crossover en cours en ce moment chez DC, c'est le crossover Lights Out avec la quatrième partie, Red Lantern numéro 24.
Ouais.
Non, c'est la quatrième partie, c'est bien ça.
La quatrième partie de Lights Out.
Ça se termine dans l'agneau.
Il y a eu un petit doute là, l'espace d'une seconde. Avec ces crossovers Marvel qui commencent par des one-shots, maintenant je commence à m'y perdre. Valentin, vas-y. Oui.
C'est écrit par Charles Soule et dessiné par Alessandro Vitti. Donc on suit le périple des Green Lantern qui vont voir les Red Lantern pour essayer d'avoir un petit coup de main contre Relic. Et en parallèle, on a Atrocitus qui rencontre Kyle, qui est toujours à la poursuite des entités. Et donc on voit que Guy est pas forcément... Et pas forcément.
Oh, je suis désolé, mais l'entendre appeler Guy, moi ça me fait toujours mal.
Alors Guy, comment vas-tu?
Donc on voit Guy qui veut pas forcément redevenir un Green Lantern. Il se plaît plutôt bien dans les Red Lantern, et donc il passe un marché avec Jordan après avoir expliqué un petit peu. Il passe un marché avec Jordan, et ça peut amener un nouveau statu quo après le crossover. Donc j'ai plutôt hâte, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et les dessins sont assez bons. À certains moments ça pêche un peu, mais sinon ça va.
Donc, ouais, c'est plutôt le premier numéro de Vitti sur Red Lanterns m'avait moyen plu, et là il a pris ses marques, c'est plutôt ouais. Plutôt bien. Charles Soule, c'est simple, hein, il a vraiment pas son pareil pour saisir les personnages. Il les écrit très bien généralement sur toutes les séries qu'il écrit, donc c'est vraiment très bien écrit. Les persos sont cool, Guy il est super cool en Red Lanterns, j'adore, il saisit bien les persos, et surtout la fin est amener, enfin la conclusion à mon avis va être assez assez étonnante et il y a de grosses surprises certainement parce qu'on s'attendait pas à ce retournement et on, voilà, en cinq parties ils vont arriver à nous surprendre quasiment à chaque numéro, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro.
Ça change de Battle of the Atom.
Ouais, c'est, ça traîne beaucoup moins et c'est vraiment très cool, hein. Super, très bonne lecture pour moi.
C'est clair qu'un crossover en 5, ça va nettement plus vite et c'est peut-être le meilleur format finalement quand on a une histoire. Pourquoi les tirer en longueur, autant la raconter directement. Le numéro est très bon, mais paradoxalement pour moi c'est le numéro le plus faible de Lights Out, je trouve.
Ah, pour, ouais, le moment, pour moi c'était celui de la semaine dernière qui était un peu un numéro de transition, un peu plus statique. Là je trouve que ça.
Mais je trouve ça cool. Qu'il se passe moins de choses dans cet épisode-là, en fait.
Ouais, mais c'est mieux écrit que Justin Jordan, je trouve. Je trouve que c'est mieux écrit, il y a plus d'humour, plus de pêche, quoi.
Ouais, ah oui, non, mais là, je suis d'accord. Certes, c'est mieux écrit, mais je trouve qu'au sein du crossover, c'est l'épisode le plus fait parce qu'il s'y passe le moins de choses.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
En termes d'avancée de l'histoire, ouais, il se passe des choses, mais ça aurait pu aller un peu plus vite comparé aux autres parties. En revanche, non, c'est très bien écrit. Reste que effectivement la lecture de tous les précédents Red Lanterns est un plus. Moi j'ai énormément de retard sur la série, j'ai lu que le premier épisode, j'ai pas eu le temps de rattraper les autres, donc on arrive à pas trop se perdre, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un plus d'avoir lu les anciennes parties.
Ouais, je suis d'accord avec toi parce que j'avais un peu lâché Red Lanterns. Et là, j'avoue qu'il y a certains trucs où je me suis un peu posé des questions.
Non,
et
mais c'est juste les relations entre les Reds et Guy qui est assez excellente, quoi. C'est qu'il faut saisir, quoi, mais c'est vraiment cool.
Mais je dirais que c'est un numéro de Red Lanterns qui est taillé nos crossovers et non pas un numéro du crossover.
Ouais,
tu vois,
ouais, c'est ouais. Mais en plus, ça les inclut bien.
Mais
ça reste cool.
Vachement bon. Hein,
et puis ils auront peut-être un rôle clé de justement dans la fin, dans comment ça va se passer, quoi.
En tout cas, pour moi, ce sera un bail. Très bon épisode, hein, encore une fois. Et très bon crossover que ce Lights Out. Hein, je n'espérais plus et je suis tellement content de lire du bon Green Lantern en ce moment.
Bah c'est ouais, bizarre parce que ils ont réussi, les nouveaux auteurs de Green Lantern, à faire oublier l'ère Geoff Johns. Et moi, ça me surprend, moi qui étais très fan, de voir des nouveaux éléments apportés à la mythologie Green Lantern. Moi je suis fan de ce crossover.
J'irai pas jusqu'à dire oublier l'ère Geoff Johns, en tout cas oublier son passage New 52, ça oui, je suis d'accord par contre.
Ouais.
Mais l'ère Geoff Johns, avant de pouvoir l'oublier, va falloir se lever de bonne heure, je pense.
C'est-à-dire qu'il a apporté un nouveau souffle à Green Lantern et à faire oublier justement les derniers numéros.
On en est encore qu'au début et je veux pas aller trop vite en besogne parce qu'on risque d'être déçu relativement rapidement aussi. On va passer à la suite, c'est un autre crossover, cette fois auto-contenu, ça s'appelle DC Universe versus Masters of the Universe numéro 2, Bruno.
Eh oui, on n'avait pas parlé du premier numéro et...
Oui, à ma grande surprise d'ailleurs.
Et pourtant c'est vraiment très sympathique, alors c'est un peu le guilty pleasure, hein, comme t'aimes bien dire Steve. C'est écrit par Tony Bédard. Avec un plot de Keith Giffen et des dessins de Dexter Soy. Donc dans le premier numéro, on s'était rendu compte que Skeletor avait...
Je me permets de te couper tout de suite, mais je pense que ce sera le coup de cœur de la semaine de Sam, puisque ça réunit toutes les choses qu'il aime, hein, des crossovers avec des franchises tirées d'univers de dessins animés dont il se fout totalement, et en plus écrit par Tony Bédard.
Ah oui,
donc
oui,
je pense qu'on a atteint le summum de son coup de cœur de la semaine.
Petite pensée pour Sam, c'est ça, tout à fait. Donc dans le premier numéro, on avait appris que Skeletor était arrivé sur Terre pour pouvoir pomper toute l'énergie magique de la Terre, parce que contrairement à Eternia où la plupart des gens peuvent utiliser la magie, sur Terre il n'y a que quelques magiciens dont Zatanna, Constantine et d'autres personnages comme ça, et donc il veut récupérer cette puissance pour aller après défoncer la gueule des maîtres de l'univers sur Eternia. Donc il s'est allié avec un personnage magique de l'univers DC et à l'opposé on a un personnage, en fait on apprend les origines de He-Man. Alors ça je suis pas sûr que ce soit comme ça avant dans l'histoire du dessin animé, mais on se rend compte qu'on apprend à la fin du premier numéro que la mère du héros est une terrienne en fait, et qu'elle était arrivée, c'est une astronaute qui était arrivée sur la terre d'Eternia par magie, un peu comme dans la planète des singes, et qui avait eu un enfant avec le roi d'Eternia et qui a eu donc He-Man. Et comme elle est terrienne, elle avait été envoyée par Skeletor sur Terre, et là elle a demandé l'aide de la Justice League Dark pour justement empêcher l'attaque de Skeletor. Donc le héros en fait de ce crossover, ce qui est très étonnant, c'est que c'est Constantine. Donc c'est pas du tout, hein, le personnage auquel on aurait pu s'attendre pour un gros crossover de l'été. C'est Constantine qui mène la barque et c'est très sympa.
Crossover de l'été, on est quand même, ce serait plutôt crossover d'hiver là.
Ça a commencé en août, mais c'est vrai que c'est un peu l'hiver.
Août, c'est vraiment la fin de l'été, hein, pour les Américains.
Tout à fait, tout à fait. Mais alors franchement, c'est hyper sympathique. Là, on a Skeletor qui se frite contre la Justice League. Donc, comme il maîtrise la magie, il ne fait qu'une bouchée de Superman. On a un twist à la fin qui est assez sympa. Alors, c'est complètement hors continuité, donc on se doute qu'il va pas y avoir de répercussions de fou. Mais c'est vraiment très fun et c'est plutôt bien dessiné. Donc, bah ouais, vivement le numéro 3, voir ce qui se passe. Ce qui est très sympa, c'est qu'on a plein de petites références, à la fois sur les maîtres de l'univers, mais aussi sur l'univers DC et les New 52, avec, voilà, il se moque un petit peu de toutes les Justice League qui existent. C'est vraiment dans la continuité. Enfin, il y a vraiment beaucoup de références au New 52, donc c'est intéressant.
C'est dans la continuité New 52 sans être dans la continuité actuelle.
C'est ça, exactement. Mais donc voilà, plutôt cool et... voilà, un gros check-it, tendance buy.
C'est en 6, hein, je crois, si ma
mémoire est bonne.
On va terminer notre partie d'essai avec la sortie du 12e épisode de Talon, Mr. Anemone.
Ouais, alors un épisode de James Tynion IV et avec des dessins de, je l'ai perdu, Emmanuel Simeoni. Voilà, Emmanuel Simeoni, d'ailleurs des dessins que moi j'aime beaucoup sur cette série. Un épisode où Batman, Bruce Wayne, hein, prend sous son aile définitivement Kelvin Rose. Un personnage de Kelvin Rose qui me fait vraiment penser au personnage d'Azrael, même physiquement, de plus en plus, et avec ses origines qui font aussi écho à celles d'Azrael, je trouve, pas mal.
C'est vrai que le parallèle, maintenant que tu en parles, effectivement, c'est un peu le Azrael des New 52, quoi.
C'est ça, totalement. Mais totalement.
Ouais, c'est marrant que j'ai pas vu ça et maintenant, effectivement, ça me saute aux yeux, quoi.
Oui, c'est le Azrael des New 52 et en plus, en lisant ça, je me suis même demandé si un jour il pourrait pas endosser un costume de Batman ou de Robin, en tout cas. En tout cas, un costume propre à la Bat-Family, autre que celui du Talon, enfin d'un ergo, quoi. On suit aussi les traces, enfin, ils suivent les traces du Gotham Butcher, et donc nous aussi, en même temps, avec des éléments encore sur ses origines. Donc c'est ce super ergo de ouf, quoi, qui est complètement psychotique. Et on apprend quand même pas mal de petites choses. Il y a un cliffhanger plutôt sympathique, assez logique d'ailleurs, hein, qu'on peut deviner avant de lire le numéro, avant d'en arriver au terme. Mais voilà, enfin c'est vraiment une série sympa. Effectivement, que j'avais mis un petit peu de côté au début, et finalement je suis revenu vers ce titre. Et grand bien m'en a pris, puisque c'est plutôt sympathique. Reste que James Tynion IV, c'est pas encore Snyder. Il est il a une narration un peu plus brute. Oui, enfin je dis d'un point de vue narratif. C'est pas aussi bien écrit, on va dire. C'est un peu plus brut de décoffrage, quoi. C'est bon.
Je préfère parce que c'est déjà tellement son disciple. Il est déjà sur tête tous les projets que fait Snyder ou presque. Si on arrive quand même à différencier les deux dans le style d'écriture, c'est pas plus mal, quoi. Après ça reste mon avis. Hein.
Ouais, on n'aura pas de mal parce que effectivement, bon, Snyder, c'est un peu plus écrit. Là, c'est un petit peu plus. Ouais, les gars, mince, il y a le Butcher qui a attaqué un tel. On va lui casser la gueule. Enfin bon, j'exagère, mais bon, voilà, c'est un petit peu moins littéraire, on va dire, que Snyder. En tout cas, très bon titre, vraiment plaisant, et je me dis, comment peut-on s'en passer en français à chaque fois? Là, ça devient complètement, indispensable, quoi, à lire.
On aura peut-être une sortie librairie, hein. En même temps, c'est une série qui n'en est qu'à son 12e épisode, alors que les autres en sont 24, donc bon.
C'est vrai. En tout cas, à mon avis, beaucoup plus essentiel que Batwing, que j'ai complètement zappé depuis bien longtemps. Enfin voilà. Donc un bon bail au fait pour ce titre, pour ce numéro 12.
Mais ben voilà, on finit en beauté pour DC. On va maintenant passer au TP. On commence par DC justement qui sort un Absolute Joker Luthor de Brian Azzarello et Liber Mero pour les dessins. Justement, les deux mini-séries de Brian Azzarello et Liber Mero réunis, Luthor Man of Steel et le graphic novel Joker. C'est un gros bouquin en hardcover et c'est au prix de $100, ça reste un peu cher je trouve.
Ah, très cher.
Mais bon, c'est de la grosse qualité, si vous ne les avez pas et que vous n'arrivez pas à les trouver, c'est une édition sur laquelle vous pouvez vous jeter si vous avez un peu de sous. Chez IDW maintenant nous avons la sortie d'un deuxième omnibus de Doctor Who avec 16 épisodes à l'intérieur ainsi que l'annual 2010 où l'on va avoir les derniers épisodes comics du 10e Docteur ainsi que le début du 11e.
Ah, cool!
C'est au prix de $30.
Ah, moins cool.
Bon, pour un TP avec 17 épisodes à l'intérieur, c'est pas si cher que ça. Hein.
Sûr.
Tu vas te calmer, oui.
Toujours chez IDW, la sortie en TP du Judge Dredd Year One, cette mini-série qui reprenait la première année du Judge Dredd, écrit par Matt Smith. C'est au prix de 17,99$. Série que vous aviez lu, je crois, Benny et Bruno, peut-être.
Je sais plus.
Moi, j'ai lu
si
le 1.
Si j'avais commencé, j'en garde pas un grand souvenir.
Non, ouais, en fait, j'ai lu que le 1, moi. J'ai pas lu la suite de la mini-série.
Bah, c'est peut-être le moment de vous rattraper avec cette version TP. Chez Image maintenant, en hardcover deluxe, Cowboy Ninja Viking, les 10 épisodes de la série de A.G. Lieberman et Riley Rossmo. Un truc complètement fou de ces artistes qui montent hein, tous les deux, A.G. Lieberman et Riley Rossmo, que l'on voit un petit peu partout maintenant. C'est au prix de $40.
Ouais, il serait temps, parce que A.G. Lieberman, il était déjà bien monté il y a quelques années, vu qu'il était...
oui, il était sur du DC, mais il est redescendu.
Il était sur du Batman.
Il a été un petit peu oublié et il est en train de revenir sur le devant de la scène et c'est pas plus mal.
En force, ouais.
Maintenant, chez Marvel, nous avons un Marvel Masterworks qui sort Sergeant Fury, volume 1 en TPB, au prix de $25, qui va reprendre les 13 premiers épisodes de la série Sergeant Fury de 1963, écrit par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. Quand même.
Ouais. Une team, franchement, bof, quoi.
Qui n'aura pas fait beaucoup d'exploits dans le comics.
Pas grand-chose, ouais, et qui n'ont pas marqué forcément l'industrie, quoi. il en faut aussi, il faut de la place pour tout le monde.
Je vous rappelle notre bibliothèque du Comic City que vous avez pu découvrir jeudi, sur de Jack Kirby chez DC, notamment. Ah oui, auto-promo, il en faut.
Avec Sam en prof et Steve.
Avec... autre sortie de chez Marvel en TP au prix de $20, et là ça va rappeler des bons souvenirs à Mr. Nebony. Ça s'appelle Spider-Man Life in the Mad Dog World avec cet arc Mad Dog.
Ah ouais, ouais, qui était assez spécial quand même pour l'époque.
Écrit par
Anno
Senti.
Ça faisait très indé, ouais. Et c'était un arc très sombre qui était sorti juste après Kraven's Last Hunt. Et donc on enchaînait avec deux arcs super sombres, ça faisait tout bizarre.
Anno Senti de scénario et des dessins de Cynthia Martin et Bill Sienkiewicz. Ça reprend les épisodes, ouais. Web of Spider-Man 33, Amazing 295, Spectacular 133 et Spider-Man 29 à 31.
Ah oui, d'accord, donc il y a la suite en fait. Ouais. Ils ont fait une espèce de retour dans le... Donc, je sais pas, enfin, je sais
ouais,
plus comment ils l'ont appelé.
Une espèce de compilation des deux histoires. C'est la saison de Thor, et donc on continue d'avoir du Thor qui sort en TP. Cette fois-ci, ça s'appelle Thor Epic Collection War of Pantheon, avec les épisodes 383 à 400 réunis dans ce TP pour $35, avec notamment du Ron Frenz au dessin et du Tom DeFalco au scénario.
Ça date de quand? Des années 90, peut-être?
400, ouais, c'est ça, ouais, dans les années 90, ouais.
D'accord.
Et pour terminer, nous avons un TP X-Men X-Corps, écrit par Joe Kazé, avec du Ian Churchill au dessin, notamment. Ça reprend les épisodes 394 à 409 de la série Uncanny X-Men, ainsi que l'annual 2001. C'est au prix de $40. Joe Kazé sur les X-Men, c'était tellement bon.
Oui, c'était un renouveau qui faisait du bien.
Voilà, ça sort, je le mentionne parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose en TP cette semaine.
C'est vrai.
Pour ceux qui voudraient découvrir cette période qu'ils ont ratée, hein, notamment le fait que Banshee se dissocie des X-Men, va aller former son espèce de clan paramilitaire. Ouais, bon, c'était pour moi une période à oublier, mais bon. L'arrivée de Stacy X aussi. Bref, que du pas bon. Mais après, ça reste mon goût personnel, hein. Ça n'engage que moi. Voilà, c'est tout pour les TP de la semaine. Hein. Petite liste. Il n'y avait vraiment pas grand-chose en TP, encore une fois. Ce qui nous permet de faire quelques économies.
Tout à fait. Ça fait
du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin des sorties du mois d'octobre. La fin du crossover Lights Out. La fin de Battle of the Atom. Rien que déjà ça.
Ouais.
Ça va être pas mal. Et puis il y aura encore plein d'autres choses. Comme d'habitude, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter. Vous nous envoyez des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes, site qui a subi quelques petites modifications et pour lesquelles on remercie Flo.
Oui, c'est pas lui
qui s'en est occupé.
Merci Flo.
Faut pas le dire, c'est de la bidouille. Ça va encore bouger dans les prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas.
Oui, mais...
Le site va bientôt être effacé d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Je vais faire une mauvaise manie.
Par ses soins.
On se retrouve donc la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Bisous, bisous.
Bye les gens.
À bientôt. Ciao, ciao.
You put on a fancy dress and you're heading up to Wrecking Brisbane.